de douloureux. Mais l'accueil fait aux intellectuels était toujours un accueil en suspicion et les mettant en situation de devoir faire en permanence leur preuve de fidélité. D'où cette position assez ambiguë des intellectuels communistes, dont le prototype est Aragon, dont un auteur qui m'est cher, Dionis Mascolo, disait que finalement il était resté un sympathisant de l'intérieur, mais sans cesse tenu de prouver, d'où, enfin, c'est un texte un peu connu, mais cette brochure impitoyable sur Aragon de Jean Malaquais, qui est Aragon ou l'intelligence servile, mais c'est vrai qu'il a servi bien des causes, les meilleures et les pires.
Mais c'est bon. Un mot qui revient souvent sous ta plume, ça, quand on lit tes papiers, tes intelligence servile, ça c'est une hantise que tu as.
Ah oui, oui, bah, quelle que soit d'ailleurs la servilité, mais qu'on mette ses idées à la disposition d'une autorité ou d'une maîtrise, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit aujourd'hui dans le cas de l'ancien disciple de Foucault qui est devenu l'idéologue organique du MEDEF, ou que ce soit d'ailleurs une soumission à l'orthodoxie du parti, je crois que... Alors si on a réussi, on a réussi quelque chose, c'est pas du tout d'avoir créé un grand parti, on a essayé de faire de notre mieux, mais je crois que ça c'est quelque chose d'important, pas de visible, d'avoir réussi à créer un mouvement, une organisation politique dans lequel il y a bien des affinités, mais il n'y a pas une orthodoxie de pensée. On n'a jamais d'ailleurs été sartrien contre Althusser, althussérien contre Lefebvre, etc. Peut-être éclectique, mais tout ça faisait partie d'un patrimoine, d'un paysage. Finalement, c'est le terme que j'emploie dans l'introduction du bouquin. Mais c'est un paysage de pensée qui reste assez divers et je crois qu'il n'est pas quelque chose de personnel. Une culture d'un certain pluralisme... qui en même temps n'est pas incompatible avec un engagement énergique. Hein. Ça, c'est un peu mon défi. Est-ce qu'une politique profane ou laïque est possible ? Ça se traduit par est-ce qu'il est possible de s'engager à fond, de mettre une énergie absolue à partir de convictions ou de certitudes relatives ? C'est-à-dire, on n'est pas sûr d'avoir raison, mais pourtant, bon, la politique est un combat, il faut y aller, quoi.
Alain Krivine a confirmé aux journalistes qu'il se présentait, à moins que les partis révolutionnaires n'arrivent à se mettre d'accord sur un candidat commun. Pour sa part, Alain Krivine verrait très bien comme candidat Charles Piaget, le représentant CFDT de l'IP, qui a été à la pointe de l'actualité durant tout le conflit à Besançon. Alain Krivine, au micro de Suzanne Gauthier.
La raison, je crois, en est fort simple, c'est que si effectivement aujourd'hui des millions de travailleurs vont voter pour l'Union de la gauche, avec l'espoir de renverser l'UDR, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de travailleurs. Par contre, qui sont extrêmement méfiants, surtout après l'expérience chilienne, extrêmement méfiants vis-à-vis du caractère réformiste et légaliste du programme commun et de l'Union de la gauche, qui veulent affirmer cette méfiance dès le premier tour, même si au second tour ils apporteront leur suffrage à François Mitterrand. Par conséquent, nous pensons qu'il est extrêmement important que cette force de défiance vis-à-vis de l'Union de la gauche ait aujourd'hui à pouvoir se regrouper derrière le nom de Charles Piaget de façon à montrer à François Mitterrand que tout ne sera pas permis et que notamment, il y a aujourd'hui en France une force extrêmement importante qui sera prête, même en cas de victoire de l'Union de la gauche, à ne pas tolérer le pouvoir de la bourgeoisie qui restera en place. C'est ça que nous voulons développer pendant la campagne présidentielle. C'est ça que Charles Piaget pourra développer avec beaucoup plus de force que nous s'il est le candidat unique des révolutionnaires. Si par malheur, ceci n'est pas possible, malgré la mobilisation de masse qui va s'opérer derrière son nom cette semaine, alors nous serons amenés à garder notre candidature.
Alors, parlons de cette époque d'après 68, parce qu'à travers tout ton bouquin, il y a une chose qui te hante, c'est-à-dire pourvu que je n'écrase pas les générations qui viennent. Hein. Surtout ne pas désespérer ceux qui arrivent. Il y a cette hantise quand même, cette courtoisie au moins.
Non, je pense que le terme de courtoisie, dans ce cas-là, c'est une courtoisie réfléchie et politique. Je ne dis pas que c'est la bonne réponse, mais il y a une énigme en France, c'est la difficulté, alors qu'il y a eu des luttes sociales très importantes en 1995, en 2003, comparées aux pays voisins, à l'Italie, avec les grands mouvements autonomes, en Catalogne ou en Espagne, avec le mouvement anti-guerre, en Angleterre, En France, il y a une difficulté particulière, semble-t-il, d'émergence d'une génération politique. Il y a des jeunes aujourd'hui